Après de très longues péripéties, l'épisode du Hackfest 2017 est enfin prêt pour être diffusé. Juste quelques petites informations avant de débuter. Richie, son micro a flanché en plein milieu, donc on l'entend pas très bien la fin. Il y a plusieurs coupures pour de longueurs inutiles ou de choses qui n'étaient pas propices à la diffusion ont été faites. Normalement, ça apparaît pas trop, mais des fois, vous avez peut-être sauté dans des sujets qui semblent discontinus. Sinon, c'est 1h30 de diffusion. Il y a beaucoup de choses qui ont été conservées, qui sont essentiellement beaucoup de faux rires, beaucoup d'éléments drôles entre nous autres. Donc, peut-être un peu moins en contenu, peut-être plus en drôle. Bonne écoute.
Bienvenue à l'édition spéciale du Hackfest de la French Connection.
À chaque fois, j'ai les poils qui...
Bonjour tout le monde, bienvenue à la 16e épisode enregistré au Hackfest. Ce soir avec moi, j'ai Damien qui arrive de la France et qui est au Québec avec nous.
Mais bonjour, vous êtes qui vous?
Bonjour. Moi, je suis la nouvelle.
Bonjour à tout le monde.
J'ai aussi Richer à ma droite.
Salut.
Vincent.
Allô.
Et Nicolas.
Hello.
Donc ce soir, plein de sujets.
Merci de me faire rire demain.
Donc plein de sujets, on va parler du Hackfest évidemment, de qu'est-ce qui s'est passé. On va aussi parler de nouvelles, updates, Equifax et autres.
Entre autres.
Yes. Donc commençons par vos impressions sur la fin de semaine, messieurs. Vincent, t'étais-tu là, toi?
Juste après-midi.
Et pour le court moment?
Spectaculaire. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Olivier Bilodeau?
Awesome.
Oui! Yeah. Il est bon, Olivier. Il est drôle. Il est le fun. J'ai vu Sugi aussi, le psychologue.
Yes.
Qui était spectaculaire, que j'ai vu avec Nicolas au DEF CON cet été. Ben, en fait, j'imagine.
C'est long, c'est l'ensemble.
Oui. Et puis le premier, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il faisait, mais il était bon aussi. Mais sinon, l'ambiance, il y a beaucoup de monde. Je pense que l'endroit commence à être petit ici. Est-ce que je me trompe?
Tu te trompes.
C'est l'organisateur qui parle, là. Là, il est comme gêné. Là. Il n'y a pas de chèque sa chaîne. Qu'est-ce que t'as?
On ne l'annoncera pas à l'hôtel. Tu
des verres dans
le... Si on vit la piscine, on peut vraiment avoir plus de monde encore.
Oui. Mais non,
on peut en parler, pour vrai. On peut avoir l'hôtel. On peut louer environ une dizaine de salles de plus dans l'hôtel.
Nice.
L'objectif est de grossir encore plus sur plusieurs étages. Mais le bug, ben pas un bug, mais ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on a des activités sur 3 étages, mais personne n'était au courant au début. Mais après ça, on a eu la Social Engineering qui était la salle pleine, Plaza 1 et 2 plein. Là, la pique en bas plein. Fait que là, l'année d'après, ben, je pense qu'on va louer l'étage en dessous aussi. Yep.
Yeah.
Nice. Donc, on a un succès nord-américain, là.
Ben, au minimum canadien. Là,
ouais. Ouais. Ben, je vais être honnête avec vous, c'est en train quand même de faire une sacrée résonance au niveau mondial. Et vous avez la chance aussi, moi j'étais impressionné, c'est par l'une des toutes premières conférences, celle de Muriel. Vous êtes les premiers à avoir impliqué aussi le fait de dire qu'on peut parler de l'handicap. Et ça, j'ai trouvé ça génial.
Oui, vraiment.
Alors là, j'ai trouvé ça vraiment expliqué que l'intégration, que tout le monde peut être impliqué. Et en plus, j'en croise moi énormément d'adolescents, de gamins, de jeunes qui ont peut-être un trouble d'autisme ou d'asperger et qui sont souvent rejetés. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que l'informatique peut permettre aussi... Eh bien, ils sont comme tout le monde. Et ça, j'ai trouvé cette conférence de Muriel qui était phénoménale.
Mm-hmm. Puis en même temps, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que pas tout le monde, mais il y a beaucoup de... En informatique, c'est un moyen, une plateforme facile pour les personnes qui sont peut-être moins socialement pas adaptées.
Mais ce qu'elle disait, c'est parce que c'est apprécié de travailler tout seul dans son cubicule à longueur de journée puis pas parler à personne.
C'est
un état normal et non exceptionnel.
Je suis normal, merci. Yes. D'autres talks, Vince?
Non.
Ah, OK.
Cool. T'étais absent,
fait,
finalement.
Si tu veux qu'on parle du Hackfest...
Oui, oui. Vas-y, mon Richer.
Non, je vais laisser la place à Richer.
C'est ça que je dis.
Ah, Moi, je suis arrivé aujourd'hui à 10 heures.
Et on parle à Nicolas maintenant.
Voilà.
On a skippé vite, là. Moi, j'ai été assis dans la Plaza 1 pendant les 2 jours au complet.
Fait que t'as vu des talks.
J'ai vu toutes les talks de la Plaza 1.
Je vais faire une expérience. Ça, c'est pour celui qui gère le son.
Ah, non, de toute façon, ça va se filtrer. Mais pour revenir à ce que Damien disait, effectivement, c'était bien qu'on ait quelqu'un qui aborde le fait de l'intégration, mais c'est pas la première année qu'au ACFES, c'est ce genre de discussions-là qui sont pas purement techniques, mais qui permettent de regarder, d'avoir un regard sur l'intégration des gens, sur comment les gens sont dans notre milieu. La dépression aussi, qui est très flagrante dans notre domaine. La façon d'aborder les choses, fait que sinon, ça demeure très intéressant. Sinon, ben, Olivier Bilodeau, oui, toujours, c'est le clown de service, fait que c'est excellent. Seule critique négative, c'est qu'en anglais, il n'est pas aussi drôle qu'en français. Fait que ça, regarde, ça, c'est un peu dommage. J'ai perdu un peu de lustre sur le niveau de drôle. Sinon, Johnny X-Mace, c'est paranormal. C'était excellent. Il a fait, comme d'habitude, il a fait sale comble. Puis il nous a rappelé sévèrement qu'on est encore en train de patcher des affaires qui datent des années 90, qu'on aurait dû faire depuis 30 ans, qu'on ne fait pas. Puis ça l'écarte beaucoup, fait qu'il a fait une liste de ce genre de choses-là. Et j'ai des amis qui sont testés ces choses-là dans leur entreprise aujourd'hui même. Et, et ils ont été un peu sidérés de voir que ça fonctionne trop facilement. Il a fait comme c'est trop facile. Et j'ai dit, ben oui, bienvenue en sécurité, c'est comme trop facile. C'est les mots de passe, puis octobre 2017. Probablement qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça.
C'est le mois passé, ça.
Ben, c'est fini. Mais si tu changes aux 30 jours, on est rendu en novembre 2017. Wow. Ça respecte la politique. C'est majuscule, plus le nombre de lettres, plus les chiffres. Mais lançons ensemble les conférences très intéressantes toujours. Oh, c'est ça, non, gars, t'as tout bugué. Tout est brisé.
Excusez-nous, hein. On est très...
on est très intime. Normalement, on a l'Atlantique qui nous sépare comme ça, fait que c'est plus difficile. Là, on est comme on se peut plus là, d'avoir Damien proche comme ça.
C'est ça, oui, oui.
Ça sonne mieux, en plus.
C'est ça.
Non, sinon, les conférences, toujours aussi intéressant. Ça le comble. Même le samedi, cette année, ça a été phénoménal. Là-dessus, ouais. C'était un peu plus mou. Puis toi, même dis, ah non, on a genre 200 personnes de moins. Je fais comme, non, je l'ai pas senti, 200 personnes de moins.
Non, je pense juste à 9h05, il y avait pas grand monde. À 9h30, c'était le bordel.
Je pense qu'il dormait encore. Je pense que l'alcool a bien coulé hier soir.
Yep.
Bah, 9h, c'est trop de bonheur.
Ta conférence favorite de Plaza 1, Track 1.
Moi, c'est X-Mess.
X-Mess.
J'ai donné X-Mess tout le temps. Et chaque année, pour moi, il nous ramène aux bases.
Oui, puis c'est des sujets qui est un peu pas plate, mais dans le sens, dans les conférences, il y a beaucoup de monde qui veulent juste la nouvelle recherche, la dernière affaire qui est la nouvelle tendance. Mais officiellement, en entreprise, on rush encore avec octobre 2017. Donc, c'est bien d'avoir ce genre de conférence-là. Ouais.
Moi, j'ai un petit détail, parce que je le vois, il est là-bas avec son enfant, son fils. Dimitri, son workshop était phénoménal. Déjà, il y a eu énormément de monde. Mm-hmm. Bon, dommage que la connexion Wi-Fi permettait de se connecter qu'à 2 ordinateurs, mais sinon, c'est très bien. Non. mais par contre, son workshop...
On a acheté un modèle pour 4 ordinateurs.
C'est ça. mais je lui ai dit tout à l'heure, son workshop était vraiment chouette. Moi, qui ne suis pas obligatoirement quelqu'un qui va très facilement mettre ses doigts là où il y a des fils et des petites loupiottes, j'ai adoré.
Awesome.
On y va pour le sérieux? Ou le moins sérieux?
Ouais, go for it.
OK, on fait un recap. 7 septembre dernier, Equifax, tout le monde a entendu parler.
C'est qui?
Pardon?
C'est qui?
C'est Equifax? C'est la nouvelle vedette internationale.
C'est ça.
C'est un nouveau feuilleton régulier. Bon, l'origine, rustine, pour ne pas dire patch, non appliqué. Patch annoncé par Microsoft depuis mars. Extraction d'au moins 143 millions de données clients. Divulgation le 7 septembre, mais est au courant depuis le 29 juillet. 3 membres de la haute direction ont, entre le 29 juillet et le 2 août, pour une valeur d'environ 2 millions, utilisé leurs options sur leurs actions.
Mais ils ont dit que c'était vraiment un pur hasard.
Oui, puis je pense qu'il y a eu avant la divulgation en septembre, il y a eu une enquête qui a été faite par un auditeur indépendant. Toutefois, après la divulgation et puis la petite débandade là, qui a poursuivi, ils ont peut-être jugé que l'enquête méritait d'être approfondie un petit peu plus. Malheureusement, pour les trois cocos, bien, il va y avoir une seconde enquête si ce n'est pas déjà réglé. Et au travers de ça, on a appris que le Chief Risk Officer et la Chief Security Officer, cette dernière, ben en fait, les deux ont pris une retraite anticipée avant la divulgation. Cette dernière, maître en musique, aspirante chef de musique, s'occupait de la sécurité informatique d'Equifax. Alors, drôle de hasard, je ne sais pas ce qui arrive avec ces deux personnes-là, mais bon, je pense que le Congrès s'intéresse un petit peu à eux autres présentement.
Il serait temps. Il serait temps.
Moi aussi, j'aurais pris ma retraite à être riche de même en vendant toutes mes actions.
Ah ouais, c'est clair. Mm-hmm.
Sinon, 26 septembre, donc deux semaines plus tard, la SEC, possiblement durant un an, a aussi été piratée. Là, on parle de quatre serveurs d'archives, un service qui s'appelle Edgar, un service qui contenait en fait... En fait, ils ont décidé de mettre tous les œufs dans le même panier. C'est fort simple. Toute l'information qui concerne les compagnies cotées en bourse américaines, ainsi que leurs états financiers, y étaient déposés. Et puis, première conférence de presse sublime du président de la SEC, c'est possiblement que pendant un an, les gens ont eu accès, on l'a vu. Toutefois, penserait pas qu'ils savaient ce qu'il y avait entre les mains. Parce que s'ils savaient, deux choses auraient été possibles. Soit s'enrichir avec l'information privilégiée et falsifier, parce qu'il y avait un accès en écriture aussi au serveur d'archives. Ils pouvaient falsifier le dépôt des états financiers des compagnies américaines. Je pense qu'on va avoir une suite à ça. Et puis, drôle de petite corrélation que je fais ici. Equifax, qui est une compagnie cotée en bourse, la SEC, c'est son chien de garde. Je ne verrais pas comment la SEC aura assez de crocs maintenant pour venir jouer son rôle de chien de garde auprès d'Equifax, lui qui s'est fait prendre également là, au même jeu.
À plusieurs reprises.
On poursuit.
Mais à toutes les semaines, il y a une nouvelle d'Equifax qui se font avoir.
C'est un drama continu.
Une chance qu'il n'était pas au Québec, j'aurais fait une demi-heure de fail panel sur Equifax.
Ouais, justement, le fail panel aurait duré plus qu'une demi-heure aussi.
Est-ce que tu avais entendu parler que Equifax, en plus, tous les clients qui souhaitaient profiter d'une année de sécurisation de leurs données pendant un an via la société LifeLock, qui coûte 9 dollars par mois, il s'est avéré que LifeLock, la moitié de l'argent qu'elle percevait, le renvoie à Equifax, parce que c'est Equifax qui gère leur business. Donc en fait, je me fais pirater, on m'offre une assurance, et ensuite quand je vais la payer, l'argent va retourner à Equifax. Bonheur.
C'est une très belle business.
C'est ça. Ah ben je pense que le vol de fuite de données est devenu un business phénoménal pour tout le monde. C'est le piraté et le pirate. Soyons fous.
Alors, mais... des deux côtés pour ramasser tout ce qui est possible. Ils vont juste comme faire un takeover inversé puis oups.
C'est ça.
Moi, ouais, ben il y a un petit fait étrange. Si je fais une règle de trois, je me suis informé, je suis allé chercher de l'information. Juste avant l'annonce de la brèche, la valeur boursière était 17 milliards US. 8 jours plus tard, ça a fondu 17 milliards. Donc, l'action est passée de 142 US à 92. Mais étrangement, au début octobre, l'action a remonté. Donc, la confiance est revenue. Ça, c'est le petit élément que je ne comprends pas. Les déboires ne cessent de s'accumuler.
Non, c'est même pas surprenant. Je veux dire, toutes les brèches qui ont été répertoriées de grosses entreprises, Target et autres, ils ont tous crashé leurs stock options et les mois suivants, 6 mois, un an plus tard, ils étaient le double, voire plus haut que la moyenne.
Ouais. Le monde oublie vite.
Mais pas juste ça, il faut que tu prennes en compte que les stock options, le monde qui achète des actions, quand ça crash, c'est le moment d'acheter. Mm. Puis quand ça crash puis t'achètes, ben ça remonte.
Ça serait-tu les algorithmes qui feraient ça?
Ouais, c'est la logique de l'offre et la demande.
Puis le problème, c'est que les 145 millions de clients, comme ils sont déjà clients, je vois mal quelqu'un qui a un crédit sur, je sais pas, 10 ans, dire, ben écoutez, je m'en vais. Il est aussi pris à la gorge, le client.
Ben ouais, mais côté Equifax, c'était même pas un service. C'était... Ouais.
Non, non, c'est une obligation, mais obligation. Non, mais de toute façon, ça va être les algorithmes de financement, parce que dans les bourses, c'est plus tellement d'humains qui transitionnent, là, qui...
Donc, c'est peut-être pas une vraie brèche, c'est peut-être un complot pour accomplir le rêve américain.
C'est ça, oui. Je suis comme un doux.
OK, on poursuit.
Suivant.
Dans la foulée d'Equifax, probablement qu'il y a une centaine de compagnies qui se sont mis à commander des pentests. Bon, il y a une couple
vendre
de...
leurs actions.
Il y a une couple de jeux. Alors, il y a Deloitte, le 25 septembre, qui s'est fait avoir également. En fait, l'origine, c'est une erreur de débutant. Les services infonumagiques, oui, je dis infonumagiques, même si on devrait dire le cloud.
Mais c'était pas le Mist ou le...
Comment? Je pense qu'il faut que tu boives, là, sorry.
Ah, c'était un marqueur de mélanger, des termes supplémentaires. Là. On est rendu avec le Mist, le Fog.
Le Fog, oui.
Nice. C'est ça, là, il y a un temps. Le Cloud, le Fog, le Mist.
C'est la couche entre les deux.
Ouais, c'est fantastique. Comme les marqueurs.
Fog as a service.
Ouais, as a service. Fog as a service.
Okay. Cloud as a service.
Alors, les services Exchange de Microsoft qui étaient sur un site de fog, on va dire, avec zéro authentification forte, une session administrateur RDP était demeurée ouverte et étrangement a été probablement usurpée parce que ça a duré pendant à peu près un an. Sans qu'il y ait de défaut d'authentification, donc c'était des vraies authentifications. Et puis, ça l'a. Les attaquants ont été en mesure d'accéder aux boîtes de courriel de hauts dirigeants de chez Deloitte qui contenaient de l'information encore là privilégiée. Ils ont fait une belle apparition sur la scène publique, par exemple, quand ils ont fait les conférences. Ils ont pris ça au sérieux. Ils ont divulgué. Ils prennent des mesures. Bien, c'est sûr, c'est. Une firme de consultants, une firme d'auditeurs, de consultants, experts financiers, etc. Ils ne veulent pas perdre la face, surtout que c'est un Big Four.
Moi, j'ai trois actus. Alors, il y en a une qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que ça vise des étudiants et de plus en plus de business malveillants se font. Et là, il y a un jeune de 22 ans qui vient d'être arrêté aux États-Unis depuis un an et demi. Il avait mis des keyloggers partout, dans tous les ordinateurs des profs et de son école. Tout ça pourquoi ? Pour récupérer les logins et les mots de passe des profs. Et il a modifié toutes ses notes. Qu'il ait fait, parce que ce ne sera pas le premier, sauf que lui revendait aussi à ses collègues. Sauf qu'il faudra quand même éventuellement rappeler, c'est qu'aujourd'hui, lui s'est fait arrêter par le FBI. Donc imaginez déjà se retrouver avec le FBI pour avoir modifié 90 notes. Hein. Il n'a pas fait semblant, il a tout modifié. Je pense que si on est un âne, on le restera à vie. Et se dire que le professeur ne s'en rende pas compte, le mec était vraiment très bête. Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'il a à première vue promis... Excusez-moi, je viens de me cracher dessus. Donc il a surtout proposé à des collègues et des amis de sa classe de modifier les notes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est du fédéral, c'est qu'ils ne sont pas prêts de repasser le moindre examen et que tout simplement, la sécurité s'est rendu compte qu'il y avait des keyloggers dans toute l'université parce qu'un prof s'est rendu compte qu'il avait mis un C à l'élève et que cet idiot s'était mis un A+. Donc, il y a un moment où on se dit c'est le seul moyen.
C'est un idiot de grande classe.
Ah, mais de grande classe,
non,
oui.
Non, mais de calibre international. Là.
Mais le problème, c'est que le prof, il a fallu qu'un prof fasse correctement son boulot pour se dire, je lui ai mis C et pourquoi il a un A+, pour éventuellement alerter le service informatique et de sécurité qui s'est dit, ah oui, il y a un problème. Mais le mec avait mis des keyloggers partout. Partout, partout, partout.
Mais c'est tellement 1998 comme attaque, par exemple.
C'est si beau comme ça.
Mais ça marche!
Oui, ça marche. Ouais.
Ça marche!
Ce qui est le fun, c'est... J'ai une vraie histoire liée à ça de mon côté quand j'étais au cégep.
Une vraie histoire? Parce que ça, ne
c'était
pas vrai.
C'était
pas vrai.
C'était pas vrai.
Je vais boire. J'ai une histoire proche de moi, aussi vraie que la tienne, qui... au cégep, dans certains cours qui étaient très, très durs, la moyenne était d'environ 50. Et notre année, le prof a donné son examen et la moyenne était de 90. C'était la première fois en 10 ans. Donc, on trouvait ça louche un peu. C'est même plus drôle, là. Donc, ils ont trouvé ça louche. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un compte qui était domaine admin. Le user password était test. ils l'ont bloqué. La semaine d'après, tout le monde avait des bonnes notes encore dans les devoirs. Ils se sont rendus compte que le compte backup était aussi domaine admin.
Non.
Aux examens finaux, ils se sont rendus compte que la note était vraiment élevée. Ils se sont rendus compte que le compte vide était aussi domaine admin.
Oh, punaise.
Ouais. Le compte bidon aussi.
Ouais.
Ça a été vraiment une terrible année. Mais le pire là-dedans, c'est que pour revenir à ton histoire.
Quoi, il y avait 300 faucons qui s'étaient créés parce qu'ils étaient trop
non,
wise?
Non, non, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Ils étaient beaucoup plus wise que ça. Ils ont décidé de shutdowner l'environnement au complet. À 8 heures du soir, il y avait l'admin et eux assis dans 8 classes. Donc, l'admin s'est levé debout. Il est allé voir dans les classes. Il y avait 2 personnes dans les classes. Donc, c'était eux, évidemment, qui avaient fait l'attaque. Ils ont été mis dehors de l'école. Félicitations.
Oui, hein?
C'est ça. Ah, au moins, ils ont été pincés, c'est déjà ça. Oui,
ouais, ouais, évidemment. Ouais. Mais, je veux dire,
Mais combien de personnes ont pu peut-être éventuellement avoir un diplôme
à cause de ça?
À
ouais.
cause de ça. C'est
beaucoup.
Autre actu?
Beaucoup,
allez,
beaucoup.
Entre une petite bouchée. C'est important de parler la bouche pleine, hein, ça se fait très très bien. J'ai 3 jeunes étudiants toujours, mais là c'est des lycéens, 16-18 ans en France, qui faisaient du spoofing téléphonique. Alors je sais pas si vous connaissez le swatting, je suppose que oui, hein, c'est le fait de téléphoner aux autorités, à la police par exemple, et on se fait passer pour une personne en lui disant « ben voilà, je viens d'assassiner ma femme, mon mari ». C'est très classique, en tout cas dans le monde du jeu vidéo. Sauf que là, ces 3 étudiants, ces 3 lycéens, 16-18 ans, se sont amusés à faire du spoofing en appelant la police. Donc, il y a une 60aine de commissariats qu'ils ont appelés comme ça. Une fois qu'ils appelaient, ils mettaient en relation avec les pompiers et les gendarmes, donc une autre forme de police en France. Et puis, au milieu, ils hurlaient, ils insultaient. Le problème, c'est qu'ils se sont crus très malins, ils ont tous été arrêtés, bien sûr. Mais on se rend compte qu'il est, à première vue, toujours très simple de perturber une autorité policière, par exemple, ou judiciaire, et que des enfants, parce que ça reste des enfants, à 16 ans, on se dit que si les parents ne leur ont pas expliqué quand même les bases de l'éducation et qu'on n'appelle pas les autorités juste pour le fun, bah aujourd'hui, les parents vont se retrouver au tribunal, parce que chez nous, en France, c'est du pénal, donc ça veut dire que c'est les parents qui sont responsables. Et puis aussi, on se rend compte que le spoofing téléphonique, c'est toujours pas corrigé ce petit problème. Hein. Il est tellement simple encore de se faire passer pour n'importe qui.
Mais tous les opérateurs font confiance aux autres opérateurs. C'est... comme Swift,
oui.
Tout le monde se fait confiance. On est tous gentils, on est tous des licornes. Oups, je vais tomber en bas de ma licorne.
C'est ça.
Mais parlant de spoofing, il y avait le concours de social engineering en fin de semaine au Hackfest. Et c'est effectivement une des méthodes qu'on utilise pour faire les appels de social engineering. On utilise un Astérix qui est en ligne quelque part. Dans le fichier de configuration, tu as une certaine variable égale au numéro que tu veux que ce soit. Et that's it. C'est aussi simple que ça. Là.
C'est ça le problème, c'est que c'est tellement simple.
Ouais, ouais.
Tu rajoutes pas 5% ou un code ou. Oups!
Yep, game over.
Oups, la base de données vient d'apparaître. Oups!
Mais officiellement, la police sont capables de retracer ces personnes-là quand ils font le spoofing parce que tu as 2 niveaux de spoofing téléphonique. Tu as le niveau qui est juste le numéro, tu as le ANI en arrière, qui, lui, est beaucoup plus complexe à spoofer. Officiellement, il faut une ligne analogique pour pouvoir aller changer les informations en arrière. Mais ça se fait encore. Si on achète une T1, simplement configurer encore une fois avec Astérix, blablabla, changer les 2 configs, ça marche. Puis même si tu appelles au 911, ils vont voir que les deux layers de numéros sont spoofés.
Parce que les systèmes ne sont pas confiants entre
encore
eux autres.
Encore une fois, ouais.
Il n'y a aucune vérification. Fait que tu es capable de rentrer dans le système, tu es capable de tout
faire. Comme GSM au cellulaire, right?
C'est insane.
Je suis la tour la plus proche, connecte-toi à moi.
C'est ça. Yes. Allez, je finis par...
J'ai du monde qui rit de moi à côté de moi, là.
Non, c'est parce qu'on t'aime.
C'est ça. Bon, pour ceux qui ne le voient pas, ils sont en train de se toucher. Donc, on va interdire ça pendant
tout ce se passe en dessous de la table.
Je faisais coucou à ma femme et mes filles qui sont outrées de me regarder. Hein. Je suis désolé.
Ça les mains.
Allez, puis moi, je finirai mes infos de cette semaine. Vous avez tous entendu parler de The Dark Overlord. C'est un groupe de rançonneurs, des pirates informatiques qui font dans les bases de données, etc. Ils ont attaqué, entre autres, ANBC. Et là, ils viennent d'attaquer une nouvelle major de cinéma à Hollywood. Et comme d'habitude, hein, on vole toutes les informations. Donc, si possible, des choses importantes comme chez HBO, ils avaient volé... j'ai oublié le nom de cette série, peu importe. Mais toujours est-il qu'ils avaient volé toutes les informations.
Game of Thrones.
Game of Thrones, merci.
100$, je t'en prie.
Et donc, mais ils sont revenus. Ils sont revenus, les gars. Et à première vue, c'est des données qu'ils ont volées il y a quelques temps. Mais même principe, hein, le rançonnage aujourd'hui est devenu un vrai sport olympique. Hein, entre le DDoS, entre le vol de données, entre je vais te montrer à poil parce que tu es avec une autre femme que la tienne. Enfin, c'est devenu un véritable sport. Et à première vue, ça rapporte pas mal d'argent.
Mais ça, c'est facile. Tu ne te vois pas avec la autre femme que la tienne. Ça va être un problème.
Oups. Ouais, oups. Oups. Masque de licorne. Et donc, ouais, donc voilà. Donc, on est encore avec.
Oups, j'étais sur un arc-en-ciel là.
Donc voilà, on est encore avec du rançonnage. Et je pense que c'est quelque chose que les gens devraient vraiment entrer dans leur état d'esprit, leur éducation. C'est que la moindre motivation d'un pirate à vous demander de l'argent, c'est qu'ils ont déjà les données. N'ayez pas peur de déposer plainte et de le dire. Parce que dans tous les cas, le malveillant en face, il va le balancer. Il va certainement pas faire de cadeau. Et encore moins, ne payez pas.
Peu importe le résultat, c'est ça.
Oui, oui, peu importe le résultat. Si vous payez, dans tous les cas, ils risquent de tout rediffuser. Et payer, c'est leur dire, ben, allez-y, continuez, ça fonctionne.
Oui, c'est leur business. Plus que le monde paye, plus que ça fonctionne, plus, et ils arrêteront jamais. Si tout le monde arrête de payer, bien évidemment, ils vont faire d'autres choses. Puis ça, c'est ça le mieux. Justement, dans le Failed Panel aujourd'hui, il y avait des commissions scolaires qui analysaient les belles rançons qu'ils ont reçues et ils se demandaient s'ils devaient payer, oui ou non.
Le fait déjà de se poser la question, est-ce que je vais payer, c'est déjà trop. Ça veut dire que dans leur état d'esprit, s'ils sont par exemple à la veille d'un conseil d'administration ou d'un grand rendez-vous économique au sein de l'entreprise, j'ai trop de cas où les gens préfèrent payer parce qu'ils n'ont pas pensé à la sauvegarde, parce qu'ils se disent « je vais payer comme ça, je serai tranquille ». Non, déjà, le fait de penser à ça, c'est il est trop tard.
Puis qu'est-ce que tu penses de l'université, pas l'université, mais de l'hôpital Los Angeles, World, qui a payé, je pense, 30 000 $ parce qu'il est obligé de revenir en service.
Oui, mais je trouve ça honteux, parce que ça veut dire que déjà, ils n'ont même pas eu de sauvegarde. Ça veut dire qu'ils n'ont déjà pas quelqu'un
mais
en interne.
Mais même au-delà de ça, il y a des entreprises qui peuvent payer parce que ça coûte moins cher payer la rançon que de mettre les efforts pour établir le sécuriser. Système. C'est ça qui est terrible, parce que là, tu as un marché de gens qui vont demander des rançons suffisamment basses pour qu'on peut perpétuer le système.
Puis ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'il y a même un marché de fausses rançons qui vont seulement envoyer un courriel pour dire « si tu ne me payes pas d'ici une semaine, je mets tes services down ». Puis ils font juste envoyer des courriels. Ils ne font jamais d'attaque. Et ils font de l'argent.
Oui, mais ça qui a rendu, c'est ça, tu es dans le monde des hustlers.
Mais ils vont le faire pendant 5 minutes, puis ils vont dire si tu ne payes pas, on va te le faire pendant une semaine après.
Puis ils le font jamais. C'est beaucoup trop.
Il y a déjà soupir.
Je n'ai plus 20 ans. J'ai plus l'âge de manger une poutine grosse comme ça.
On appelle ça un blanc en radio. Hein.
C'est pour aider l'édition.
Ah, c'est pas grave, il y en a plein de ça. Je suis habitué de travailler avec
même
ça.
Même live.
Même live. Ça me trouble même plus.
De toute façon, il n'est même pas appuyé sur record encore.
Shit, faut recommencer.
Oh, non! Oh. On recommence.
Ben non.
Je fais une...
Sur ta feuille.
Sur ta feuille, ouais.
Il reste des choses sur ta feuille.
Ah, il y a juste moi qui est arrivé documenté.
On compte sur toi, t'es Mr. Ouais. Compliance.
OK.
Notre champion.
En fait, j'en ai deux autres. J'ai juste pas bien, bien documenté la dernière fois. Patrick a rehaussé mon niveau d'incompétence avec un élément que je comprenais pas. On va revenir dessus.
Oui.
Alors, dans toute la foulée de là et tes compagnies, on a Forrester le 9 octobre dernier. C'est des vols d'identifiants autorisés qui s'est produit. Et puis, ils ne savent pas du tout ce qui a été puisé comme information. On ne parle pas de vol parce qu'ils n'ont pas été dépossédés. Toutefois, l'infrastructure a été pénétrée. Et puis, c'est l'infrastructure qui possède les études des données des clients de la firme.
Moi, je t'écoute.
Il n'y a pas de place parce que j'étais en train de remémorer à Patrick ce qu'il avait expliqué de façon très intelligente à Vincent la dernière fois. Et Patrick a comme eu un blanc. Peut-être qu'il ne se rappelait plus c'est quoi.
Je ne me rappelle plus de rien puis je déparle depuis 2 semaines à cause du Hackfest. OK?
Nice. Ce qu'il va dire dans l'épisode 15, c'est intelligent, mais il ne s'en souvient plus.
C'est ça.
En fait, non, c'est sur l'autre que Patrick...
Tu devrais recommencer ce segment-là, ça va être mieux. Vas-y.
Accentue.
Yes.
11 octobre, ouais, les fameux buckets S3 sur sur Amazon. Encore une erreur de débutant qu'on va appeler ça. Et Patrick m'a expliqué qu'est-ce que sont des buckets. Et puis, ben, finalement, c'est
un bucket
avec des données dedans.
C'est
puis
pour de la neige.
C'est ça. Alors, Accenture s'est fait pirater. Encore là, l'origine, c'est les fameux buckets qui sont, et Patrick m'expliquait, une fois créé par défaut, Amazon fournit un bon système de sécurité. L'utilisateur, par contre, peut être con dans le processus et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, les buckets sont devenus publics pendant une certaine période de temps avec un accès complet.
Ils ne sont pas devenus. Il y a quelqu'un qui les a mis publics. Ouais. C'est tout là le problème.
Donc, non, moi, je préfère... La souris le dit, la souris le crie. C'est ici que c'est écrit. Moi, je préfère la magie. C'est devenu public.
Débarque de ta licorne.
Alors, encore
non, mais là, c'est correct, la magie, puisque le trois quarts des entreprises achètent des boîtes magiques. Pays oui. Play, sont sécuritaires, tu sais pas?
Ben oui, je fais ça.
OK.
Moi, j'encourage pas ça. Non. Alors, mais là, c'est terrible ce qui a été volé chez Accenture. Par contre, Accenture est une immense firme de consultants.
Mais c'est tout le temps terrible. C'est tout le monde qui se fait voler. Par définition, c'est terrible.
Non, Nicolas, là, c'est terrible.
Oui.
Là, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai.
Vincent dit que c'est terrible parce que oui. C'est marqué sur son papier.
Non, ça sent bien standard. C'est standard. Non, pas terrible.
C'est après Equifax, c'est plus rien de terrible. Là.
Le vol correspond à des identifiants, à des clés de chiffrement, des données clients. Là, Accenture possède standard, aussi une...
Standard.
Tanan.
C'est...
Alors, on assiste en fait à un paquet d'erreurs de débutants parce que c'est pas un pentest qui a décelé que les buckets étaient accessibles. Probablement que quelqu'un a dû appeler « Hey, c'est accessible! »
Non, mais c'est fou 2016 pour la quantité de données diffusées. Là, ça
17.
N'a aucun sens.
Cette année?
Ah,
OK, excuse.
C'est ça.
On
va couper.
Ah! On recule pas l'année à soir. On recule l'année.
C'est juste l'heure. Mais moi, j'aurais besoin de plus qu'une heure, là, ça m'aide de plus.
De toute apparence.
Hey, j'ai à masse parler, là. Mon papier est fini.
Mange ta poutine.
Suivant.
Non. On peut continuer de parler de bucket, par exemple. Yes. Parlons de bucket. Bucket. Bucket de bière, first. Hein? Bon. OK.
Merci. Ouais.
Mais pour vrai, si on parle Amazon, cloud, whatever, par défaut, le concept, moi, principalement Amazon et Azure, vont mettre l'infrastructure, moi, réseau, serveur, etc., sécuritaire, qui ont tellement de millions, voire presque un milliard en sécurité, ils savent ce qu'ils font, leur équipe est vraiment bonne. Mais quand vous lisez la fac, les détails, ce qu'ils vous recommandent, ou ce qu'ils offrent plutôt, ils vous décrivent que la sécurité et leur responsabilité est au niveau du service offert et non de sa configuration. Donc, il y a des configurations qui sont pas très bonnes. Mais c'est ça, la plupart des bugs sont vraiment utilisateurs, vont être mal là. Puis le problème du S3, puis pourquoi on en parle, c'est surtout à cause des bug bounties. Il y a eu beaucoup de monde qui ont trouvé des mauvaises configurations là-dedans. Et on s'est retrouvé avec plein de logiciels automatisés pour scanner les buckets. Mais à partir de là, pourquoi ils sont publics? Simplement à cause qu'ils pensaient que personne ne devinerait le user ou le nom du bucket.
C'est l'URL. L'URL qui était très long avec un nom générique, généré.
Celui-là. Comme octobre 2017.
C'est le
bout
de magique, ça.
Ah, okay, c'est la magie,
celle-là.
Ça,
c'est la magie.
C'est impossible de deviner ça.
Mais...
Hey, je vais t'interrompre sur un petit concept, le fun que tu as dit, Pat. Mm-hmm. Responsabilité.
Oui.
J'ai assisté à une conférence donnée par l'IGF cette semaine. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'avocat Jean-François Derico?
Yes.
C'est le grand spécialiste canadien sur les technologies de l'information. Et puis, Jean-François a parlé justement de ces services-là. Il n'a pas parlé de Forrester, Accenture, Deloitte, etc. Mais au sens de la loi, ils sont en train de définir justement à qui incombe la responsabilité. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui devient tangible, justement? Quand ce n'est pas tangible, les accusations sont difficiles à porter parce qu'on n'est pas capable de mettre le doigt sur le bobo. Mais Jean-François Derico est en train, entre autres, de redéfinir au sens de la loi les différentes responsabilités. Dans ce cas-ci, si j'ai bien interprété ce qu'il a dit, malheureusement pour Amazon, il pourrait avoir une part de responsabilité, même si ce n'est pas eux autres qui ont été cons dans la configuration.
Parce que la configuration par défaut d'Amazon est sécuritaire. Il faut que tu fasses un geste toi-même pour te tirer dans le pied. Donc, là, maintenant, probablement qu'il doit y avoir même des avertissements qui disent « Attention, tu vas te tirer dans le pied, le dude! Arrête! Pouf! Trop tard!
» Après, c'est te renvoie un autre message pour te dire « Je te l'avais dit.
» Je pense que ce serait une feature request.
Ce serait bon.
shoot un email sur Amazon.
Hey dude, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Mais,
je veux dire, ça a été prouvé depuis une dizaine d'années. Là. Tu fais un man in the middle, ça te dit, ah, le site suivant n'est pas sécuritaire, voulez-vous continuer?
C'est ça.
Oui. Ben oui.
Évidemment.
Mais pourquoi non? Pourquoi je voudrais pas?
Mais parce que je veux y aller. C'est ça que je vais te dire. Oui, voyons. Je vais aller sur ma banque avec quelqu'un qui intercepte mes données.
Right?
Right.
Yeah.
Ça va aller loin.
Mais c'est comportement humain normal. Ça revient presque à du social engineering. Par défaut, tu vas accomplir une tâche. Tu t'en fous un peu si tu as un warning qui est un pop-up en rouge, fluo, whatever.
Ouais, il y a ça. Puis en même temps, Amazon fait quand même des efforts. Les pays, ils vont faire du crawling sur GitHub pour trouver des clés qui ont été malheureusement laissées traîner. Mais ils font des affaires quand même. Ils ne sont, sont pas si pires que ça. Là, parce que là, on a l'air de les défier, mais... Quand tu tires dans le pied, tu tires dans le pied. Puis c'est la vie.
Puis des fois, le pied dans la bouche.
Mais pas le pied dans la bouche en tirant dans le pied.
Ça explose pas mal.
Ça saigne beaucoup dans ce temps-là. C'est un peu moins agréable.
Mais là, on parle d'Amazon qui est ultra sécuritaire, qui met les choses comme il faut. Azure, similaire. Mais là, tu as des compagnies qui sont beaucoup, beaucoup plus petites puis qui offrent les mêmes services. Ouch. Ils font pas tout ça, ils mettent pas tout ça en place. Il y a sûrement pas les warnings. Il y a sûrement des injections SQL partout. Ouais. Ils ont zéro budget sécurité. J'ai vu des clouds avec aucune équipe de sécurité et beaucoup de gouvernements qui utilisent ces services-là. Fait que ça donne peu de confiance. Ouais.
Entre vous et moi, là, un pirate, là, qu'il soit malicieux ou non, c'est brillant.
Mais
trouver une faille de cette façon-là, trouver une faille comme ça, imaginez l'infrastructure interne. Probablement que Deloitte a dû se faire attaquer, Accenture, Forrester, pas juste les services dans le cloud. Je préfère mon mot, info nuagique.
Oh, yeah, je te connais plus.
Bois.
Non. Imaginez, les compagnies ont dû se faire agresser solidement avec le peu
dans
de configuration.
Dans une ruelle sombre.
Avec un peu de configuration qu'ils avaient. Là, parce que si j'étais pirate, je me dis, bon, s'ils sont cons ici, ils doivent être cons chez eux.
Ah, mais clairement.
Non, en fait, si...
Oui!
Je ne vais pas dire. Oui, non, mais... S'ils sont terribles... S'ils sont terribles sur l'extérieur, c'est sûr qu'ils sont poches à l'intérieur. 90% des efforts sont mis sur le périmètre externe depuis le début des années 2000 parce qu'on pensait que tous nos employés étaient gentils, intelligent et ne cliquait sur absolument rien. Il recevait des courriels.
Johnny Smith qui disait que le phishing, ça marche à 100% des cas.
C'est fou. J'ai roulé une couple de campagnes de phishing pour le job, puis quelqu'un m'avait dit la moyenne de temps que ça prend pour que quelqu'un fasse un clic après la campagne de phishing est en bas de 2 minutes. Je suis comme, bof, t'exagères, tu sais. Je fais une campagne de phishing sur du HR, donc le plus facile, t'envoies un résumé, ils l'ouvrent, ils cliquent, évidemment. C'est comme leur job d'ouvrir le résumé, le CV. Je pense que ça a pris 32 ou 42 secondes. J'avais un shell d'ouvert sur ma machine, j'étais comme, ça doit être un bug, là. C'est sûr, c'est un bug. C'est ma machine.
Pas un shell, tu penses que c'est un bug, c'est
oui.
Plate, là.
C'est ben trop rapide, du jour. Colin, j'étais dans la machine de la personne. Ça faisait 40 secondes que j'avais envoyé le courriel. Je m'ai envoyé un autre. J'ai dit, c'était un bug, évidemment. Fait que je vais en envoyer un autre pour être sûr. 40 secondes, une minute, encore. On a fait ça pendant deux semaines.
T'as eu deux chaînes.
Non, mais tu vois qu'ils sont efficaces sur les Inbox Zero. Là. Eux autres, ils voient un email tout de suite, on check.
Oui, oui, exact.
C'est efficace.
Puis le plus drôle, c'est que l'Inbox Zero marche aussi sur les cellulaires. T'sais, ils sont au restaurant, puis ils vont cliquer, puis ils vont l'ouvrir. Évidemment, le shell marche rarement là, si t'es pas sur la bonne machine, mais on avait le clic quand même. Là. Ouais, j'étais un peu impressionné par la vitesse et l'intérêt de cliquer sur ce document est sécurisé. Veuillez cliquer sur Enable Everything pour voir l'information. Mais 30 secondes.
Non, Patrick, c'est de l'émotion. Le courriel, c'est de l'émotion. Le texto, c'est de l'émotion. C'est la création de dopamine. C'est des gens malheureux. C'est des gens malheureux à la base.
Ça pour faire un temps là-dessus.
T'entends le prochain.
Come on.
Richer.
Présent.
Yes.
Sauve-nous, s'il vous plaît.
Oh, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je trouve ça excellent.
Vous comprenez comment un podcast de 30 minutes est enregistré pendant 4 heures. Hein?
On n'est pas si pire à ça, quand même.
On coupe les bouts comme dans Simpson, là, quand Homer s'était fait accuser là, d'avoir harcelé sa gardienne. Il avait tout coupé les bouts pour faire passer comme quoi que c'était un harceleur, mais arrêtez. On va tout couper les bouts, on va mettre ça, puis savoir la
tête. C'est un podcast de 2 minutes et demie. Ça.
Exact, exact.
On va juste conserver l'intro faite par Richer, puis c'est à peu près la seule partie qui est vraiment...
Sérieuse?
Non, moi, je mettrais juste les interventions. Ça fait 17 ans, je te connais, tu parles pas autant que ça.
Tu savais pas que la bière, ça marchait?
Yes.
OK. Sujet suivant. Y en a-tu dans la foule qui ont été au Social Engineering en fin de semaine? Moi, je vais avoir vos impressions pour vrai. Puis vous pouvez venir à l'avant, même si vous n'êtes pas trop gêné. C'est pas grave.
Ouais,
oui,
Philippe, allez. Ouais, tu t'es fait dénoncer par ton voisin.
Oui, et arrête de manger, s'il te plaît.
Tu manges la piscine, hein, vous?
C'est...
Allons-y, Saint-Hubert. Ouais, ouais, ouais. Lui, il veut pas parler. Mais... Parle avec Super Damien.
Micro.
Maintenant, faut que tu parles dans le micro.
Non, on a avec nous Philippe Artaud, en fait. Tu as participé au Social Engineering. Salut. Oui, oui, je suis pas rendu. Laisse-moi tranquille. Okay.
Olivier, il fait des interventions tout à fait...
réalistes. Donc, Phil, tu as participé
c'est un chenapan.
Au Social Engineering le vendredi. Tu t'es classé top 3, top 4 et tu as participé à la finale. Tu as fini 3e. Je veux avoir ton impression du concours, mais aussi comment on se sent dans le boot, le stress et tout.
Pour certains, peut-être que ça peut avoir l'air stressant, mais pour vrai, quand l'exercice commence ou on fait en fond des appels à les compagnies, on a récupéré des numéros préalablement. À partir du moment que tu es dans la bulle, tu penses juste à c'est quoi le prochain numéro que je vais faire, c'est quoi mon scénario. C'est parce que tu n'avais pas un numéro arbitrairement, puis tu improvises sur le fait. Fait que tu es plus tout le temps en train de penser au prochain appel, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi mes scénarios de sortie. Fait que c'est peut-être stressant le premier 30 secondes où tu rentres dans le boot, mais moi, j'ai bien aimé là, parce qu'en fait, j'ai jamais fait de social engineering avant ça.
Et puis, même pas à job, non?
Même pas.
Cool, cool.
Puis... En fait, c'est un certain Laurent, on va taire son nom de famille, qui m'a incité à m'inscrire.
L'inconnu Laurent.
Oui.
Le très inconnu Laurent.
Et puis,
amateur en sécurité.
Non, et même débutant.
Il en a fait une bonne cinquantaine de numéros de téléphone avant de tomber sur une éventuelle personne qui veuille bien lui répondre.
Pour la finale, oui, c'est plus difficile la fin de semaine, oui. Mais sinon, en fait, pour l'exercice, moi, j'avais aucune expérience en social engineering, puis la plus grosse surprise, c'était le temps de préparation. On savait les cibles, puis il faut chercher pour des numéros, mais il faut avoir des noms précis, puis là, j'ai eu des hints de gens qui s'en connaissaient plus au social engineering, puis on disait, essaie d'avoir des références. Donc, si tu fais passer pour un tel... mentionne que c'est un tel qui t'a donné la référence. Mmh. Fait que, tu sais, de faire des liens entre des identités, c'est quand même beaucoup de temps de recherche. Puis, j'avais assisté avant à DEFCON Social Engineering, la compétition. Puis, tu sais, je suis rentré, j'en ai vu deux personnes. Puis, on ne voit pas le temps de préparation.
Non, ça a l'air facile en plus. Hein?
C'est ça, mais il faut que tu aies un scénario, tu aies comme ton identité. Il faut que tu sois prêt à répondre dans l'éventualité où la personne te challenge sur certains trucs. Il faut que ça ait l'air réaliste, il faut que tu aies le jargon. Fait que, on assiste à la compétition, on voit, ah, c'est pas pire, la personne a du tac pour répondre tel truc, elle a posé une question intéressante, mais il y a 1 million d'informations qu'elle n'a pas utilisées dans le contexte de son appel, qu'elle était quand même prête pour plein d'éventualités. Fait que c'est...
Cool. Tu y reparticiperais-tu l'année prochaine?
J'ai incité, en fait, il y a plein de monde qui était surpris que je m'inscrive à cette compétition-là. Puis il y a au moins 2 personnes qui m'ont dit qui étaient intéressés, eux, à participer l'année prochaine. Cool. Je les encourage.
Excellent. Merci, Phil.
Merci.
Quelqu'un d'autre a vu et veut parler de sa
ce que
vision
j'ai adoré
du concours? Hein?
En social engineering, c'est quand la personne au téléphone dit « Ah bon, l'interlocuteur que vous avez est à côté de vous » et je vois le concurrent qui fait « Non, non, coupez, coupez
». Il y en a eu un qui était super le fun. Je ne sais pas si c'était toi, Phil, ou un autre. Oui, je pense que c'était toi. C'était Marc? la personne, il parle, il dit je m'appelle tel nom, blablabla. Bla, bla. La personne au bout du fil dit hey, ta voix a donc bien changé. Si elle connaît, c'était toi, Phil. Hein? Là, tout le monde dans la foule essaie de ne pas rire, évidemment. Et je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu as dit un petit bout de phrase, puis la personne a continué d'y parler et d'y révéler les informations, mais il y a 30 secondes, elle lui a dit « Je te connais, puis c'est pas ta voix, donc assurément, c'est pas toi. » Puis elle a dévié de là, puis elle a continué à donner toutes les infos confidentielles. C'était vraiment excellent. C'était
et ça, drôle. C'est chouette, justement. Quand la personne pense connaître en se disant « On me fait une blague », là, en social engineering, c'est la porte ouverte à toutes les infos. Incroyable. C'est un pur bonheur.
Le concept d'aide aussi est vraiment, vraiment pas facile, mais aidant en social engineering.
Mais à la base, toute personne veut vouloir aider.
Oui, c'est ça. L'humain, par défaut, on veut aider, mais on est social aussi.
Ouais.
Donc, une des approches qui est utilisée par d'autres participants, c'était de, oui, se faire passer pour quelqu'un d'autre. L'approche étant, je suis de l'équipe de sécurité et je veux valider si vous faites tous les éléments de sécurité dans votre entreprise. Principalement dans un magasin. Et. Ah ben.
On vient de se faire embrasser par la blonde à Vincent.
Et à partir de là, la personne. J'ai aucune idée de ce que je disais. OK.
Disruptive.
C'est ta faute.
Donc, complètement.
La personne se faisait passer pour l'élément de l'entreprise, un consultant en sécurité, l'entreprise en sécurité, ouais. Et
je ne le touche même pas.
6 heures plus tard, nous sommes à la 5e minute du podcast.
La joke, elle sera même, c'est drôle. Non, mais la personne était au niveau de sécurité, je vous ai.
On t'aime, Patrick.
Dans un monde où Patrick ne sait plus comment continuer.
Patrick, prends une gorgée de bière pour se cesser.
Tiens, mon Patrick, mange une petite frite.
Attends. Bois.
Mm-hmm. Non. Je vais mettre en zone. Okay.
Donc, tu disais quoi?
On s'excuse.
Quoi?
Donc, la personne se fait passer pour l'équipe de sécurité. Puis demande à la personne, j'aimerais valider la sécurité de votre magasin. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous poser quelques questions. 2-3 appels, chaque personne dit, j'ai jamais entendu parler de ton projet. Tu rappelleras avec autorisation, blablabla, raccroche, game over. Appel, même chose. 3e personne, elle répond, au lieu de dire ça, elle dit, bien oui, je vais vous aider, évidemment, pas de trouble. Et elle a simplement défilé la liste des questions, mais la première question qu'elle a osé poser était magique. Étant, avez-vous fait des tests ou un training sur la sensibilisation par rapport au social engineering, au phishing, etc.? La personne dit, ben oui, on a fait des tests, on a fait des tests de ça, on a eu des trainings sur le social engineering, blablabla. Ah, OK, merci. Et elle a continué toute la liste des questions. Et elle les a tous eus un après l'autre. Le gars venait de dire qu'il savait c'était quoi le social engineering. Il n'a jamais validé c'était qui la personne qui appelait. C'était magique.
Alors, il y a un gros défaut. Moi, je me rends compte, en France, il y a énormément de sociétés qui font justement du training pour leur population, leur personnel. Mais ils sont devant un écran avec des superbes images qui passent. Où en fait, le training se fait devant un écran en disant « Oh là là, le petit personnage rouge, attention, il est dangereux. » Non, je pense que ce genre d'entraînement se fait avec des humains et des choses concrètes. Quoi.
Oui, puis on a eu un talk en plus sur ça hier, le vendredi du Hackfest. Ouais, il y a un talk sur l'awareness.
Ouais.
Comment faire...
Excellent d'ailleurs.
Oui, exact. Comment faire une campagne de sensibilisation, de awareness en entreprise qui est efficace. Et évidemment, le numéro 1 de ne pas faire, c'est un training sur le web que tout le monde fait next.
La personne est sauvage parce qu'elle donne son training. Je pense que le lendemain, elle envoie un phishing à la personne qu'elle a entraînée. Et genre, la personne se fait généralement prendre. Mm-hmm. Mais sauf qu'au-delà de ça, elle amène la personne dans un processus éducatif et non d'humiliation. C'est ça, c'est un problème. Les gens, c'est que on a un petit amour pour l'humiliation publique, mais ça, faudrait peut-être...
Ah oui, fouette-moi.
Mais
Pardon.
Mais cela étant, c'est qu'elle amène une deuxième. Ben, vous regarderez la vidéo.
Oh shit, il y a une vidéo.
Oui.
Patrick vient de découvrir qu'il y avait des caméras partout, ça va aller. Fait tout va bien.
Il est foutu. Je l'avais vu, mais j'ai oublié. Ça va bien.
Yes. Donc, j'étais rendu à demander, est-ce que quelqu'un qui n'était pas participant, mais qui était dans la salle et qui aimerait donner son opinion sur le concours? J'ai vu des vins tantôt. Oui?
Comment tu...
Cadeau!
Oh, Damien, le
nous venons
gaffe.
De détruire l'intégralité de l'informatique.
Les micros marcheront plus, ta faute.
Tiens.
Coca-Cola, électricité, pas bon.
Le plancher va être propre.
Bon, de ta faute, épargne-nous, qui es-tu?
Alors, moi, c'était mon premier Hackfest. J'ai décidé d'aller voir la compétition de Social Engineering, sachant pas à quoi m'attendre. J'ai été vraiment surpris de la facilité que les gens ont eu à recevoir des informations sensibles. Même, j'ai eu à un moment assez peur parce que je me disais que je pourrais aussi me faire avoir, puis les gens pourraient avoir autant d'informations pour moi.
Et ça m'a comme remis en question sur est-ce que je continue à utiliser les réseaux sociaux ou pas. Mais sinon, j'ai vraiment. C'est la chose qui m'a fait le plus apprécier mon Hackfest, c'est vraiment la compétition. Là.
Cool.
Puis j'ai vraiment aimé aussi que les gens s'entraidaient pour aider les participants à la compétition. Puis ça m'a vraiment plu.
Excellent. Merci. Puis oui, cette partie-là était un peu nouvelle, si on peut dire. On est, dans le fond, la finale, au lieu d'avoir la préparation d'une ou deux semaines du participant. C'était une demi-heure où toutes les personnes dans la salle faisaient le recon avec le participant et procédaient tout de suite au concours pour faire les appels. Beaucoup plus stressant, beaucoup plus compliqué, évidemment. Mais c'était intéressant parce que le monde dans la foule pouvait comprendre réellement c'était quoi le recon et les approches. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc, content que certains aient aimé. Puis en même temps, bien, l'objectif est atteint parce que le but était de sensibiliser et est de sensibiliser le monde. Puis pas de leur faire peur, mais de voir qu'ils comprennent qu'ils peuvent être à risque aussi. Tu allais dire quelque chose, Nicolas?
Non. Oh, là, j'avais rien de disruptif à dire. Fait que je me suis retenu.
Yes. Non, merci.
Notre meilleur ami est en train de nous... veillez à notre bonheur.
Moi, je ne veux strictement plus aucun liquide.
Non.
Tu veux une quatrième poutine?
Ah non, c'est bon. Oh, okay. Oula!
Il reste la pain de la mienne et de toute apparence, celle de la pain de Vincent aussi. Et Vincent la regarde et...
Merci.
Et Vincent médite devant sa poutine et... tu rentreras pas, toi.
Ah, ouais, c'est bon.
Dites-moi, les gars, notre podcast, là, il va durer combien d'heures?
Une max.
Là, on a une heure d'enregistrement, mais...
plus que une max.
Fait que non, on va y avoir beaucoup de...
De coupe.
De plaisir en post-production.
Ça va être réalisé dans un an.
Ou pas.
Comme le podcast l'année passée qui va sortir incessamment, ouais. D'ailleurs.
Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est notre anniversaire aujourd'hui. Hein?
Ouais, je pense que ça mérite un cheers, tout le monde.
Cheers, tout le monde dans la foule.
Un à vous!
Security Podcast. Cheers. Je ne vais pas casser l'ambiance, mais j'aimerais ça aussi faire un cheers à notre ami Steven, en sa mérite, qui était ici l'année passée.
Il était avec nous et nous ne me causait beaucoup de montage.
Effectivement.
Cheers.
Te restais-tu des éléments sur ta liste, monsieur Compliance, préparé d'avance?
T'aimes ça, hein?
Tu m'écœures, hein, mais moi aussi.
Ouais, parce que pour la petite histoire, normalement, quand on enregistre un podcast, on a un joli feuillet où chacun met ses sujets avec les liens, enfin, on fait ça bien. Sauf qu'aujourd'hui...
J'avais d'autres choses à faire.
No comment.
C'est ça. Oh,
je pense qu'Olivier veut venir participer.
Oh, yes. Allez. Une question, go for it.
N'importe quoi.
Je suis désolé, je suis plein de sauce. Mais c'est bon, je m'en souviens.
Dans le contexte, ça peut, ça peut être interprété de plein de façons ce que tu viens de dire. Là.
Ouais, tout à fait. Mais là, je vais clarifier le contexte. Mais qui était de Saint-Hubert, qui est un target d'ailleurs pour le social engineering. Mm-hmm. Puis ma question, c'est comment on fait pour éliminer les zones grises dans le futur avec les compagnies de sécurité qui ont des clients qui sont des potentiels targets? Donc, tu sais, nous, on a des gars qui ont pull-out du SECTF, qui est un événement malheureux. On aurait vraiment aimé ça, faire shiner nos gars, mais les compagnies, c'est des anciens clients ou des clients actuels. Donc, comment on deal avec ça?
Ce qu'on veut faire l'année prochaine, en fait, puis on en reparlera si tu veux nous donner conseil, mais on veut qu'au minimum, dans un, on va être plus d'avance parce qu'on est un peu dernière minute avec les targets. Mais on veut envoyer un target à quelqu'un et qui nous valide si oui ou non c'est un client qui a le droit, c'est un client ou non, et s'il peut, oui ou non, faire une attaque sur cette personne, cette entreprise-là. Sinon, ben, on va avoir une méga liste et on va essayer jusqu'à temps d'en trouver un. Je pense que ça va être ça. On n'a pas pu le faire cette année parce que tout a été retardé. En fait, là, la construction du boot, la création de. Du schéma audio, etc., etc. Donc, vu qu'on était pogné à la dernière minute, c'est
mais,
ça qui est arrivé.
Mais je pense aussi du côté des testeurs, les gens aussi, ça a été à la dernière minute. Fait que c'est pas entièrement votre faute.
Testeurs, pas... qu'est-ce que tu veux dire?
Non, mais dans le sens, les gens qui ont eu les targets, ils ont fait leur recon.
Oui, oui, c'est ça. À la
recon,
fin,
il y a eu une espèce de réalisation de « Oh my God! »
Tout d'un coup que... Hein?
Tu sais, ce que j'ai, c'est épouvantable. Je peux pas dire ça.
Oui, 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 exact.
À moins que le target soit d'accord. Y a... Mm-hmm. Mais honnêtement, chose... moi, j'ai beaucoup aimé... Tu sais, je suis allé hier... J'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été fait. Je pense que c'est une très bonne première année.
Oui,
donc, si on peut juste clarifier ce truc-là, même Philippe m'a inspiré. Là. Moi, j'ai envie d'essayer, même si c'est complètement en dehors de ma zone de confort.
Oui, tout à fait.
J'aime mieux Aïda, mais là, j'étais comme... Ah, c'est excitant, tu sais, il y a de quoi, là.
Puis moi, j'aimerais ça dire félicitations à Philippe, puis c'est plus un commentaire personnel. Première fois que je t'ai connu, tu étais vraiment quelqu'un de ultra, ultra timide. Tu as fait du social engineering aujourd'hui.
Il est encore awesome. Comme ça.
Oui, je sais, mais il a dépassé ses limites, puis je trouve ça vraiment cool. Même moi, j'ai la chienne de faire du social engineering, même si j'adore le concept, donc good job, buddy.
Puis le social engineering, c'est sortir de sa zone de confort.
Ouais, total.
Parce qu'on est clairement face à des gens dont on veut leur fournir un scénario, et on est obligé de vivre avec un élément mouvant qui est en face. C'est pour ça qu'il est super important. Bon, moi, c'est ma spécialisation, hein, le social engineering. Mm-hmm. Mais jouer avec le sentiment d'une personne en face, on a eu plusieurs cas hier qui étaient très intéressantes, où une dame, on l'entendait au téléphone, elle était dans le doute, et là, il faut la faire rire. Toutes les femmes, il faut les faire rire. Je suis français.
Ça marche quand même. Malheureusement, on n'a pas ta femme pour corroborer ce que tu viens de dire.
Je suis pas fou, je le dis parce qu'elle est partie. C'est elle la patronne. Hein.
Clairement.
Merci en tout cas.
Merci Olivier. Puis pour vrai, tout commentaire est le bienvenu pour améliorer l'année prochaine. Mais je pense que l'approche était quand même bonne si on oublie le dernière minute. Puis ce qui va être intéressant aussi au niveau du social, ça va être le résultat après qu'on veut envoyer aux médias. Puis encore une fois, le but, c'est pas de faire un shame sur les entreprises, c'est plus au niveau de la sensibilisation. Donc, il n'y a pas de... À part le nom de l'entreprise, on ne dit pas telle entreprise s'est faite avoir sur telle flag ou telle affaire. C'est plus une statistique générale. Et feedback, là.
C'est, ben, c'est toi qui parles, fait que j'imagine c'est que... Moi. C'est peut-être Damien et son coke dans la console qui fait que ça...
Elle va très bien, elle fume.
mais tant cool, qu'à ouais. parler des affaires comme ça, l'expérience au DEFCON ressemble à quoi? Là, parce que les entreprises aussi ne sont pas nécessairement heureuses de cette situation-là. Puis c'est pas une situation qui est exclusive au Québec, ce malaise-là. Les autres aussi l'ont eu à le vivre. Puis comment ils l'ont abordé? Là?
Le malaise aux États-Unis est pareil. La seule différence, c'est que ça fait plusieurs années que ça roule. Puis ont vu le résultat, l'output des compétitions, c'est quoi? Que c'était pas justement une attaque ciblée à telle entreprise.
Oui, mais si on revient, poche, parce que
là, ouais.
Nous, on est de la première année.
Oui,
au Québec, on est année 1.
Oui,
on
C'est un excellent entraînement.
Ici, on est année 1, fait que par rapport à l'année 1 de comment eux l'ont vécu, pas le outcome, ça, on est tous convaincus qu'on va en sortir grandi. Mais là, parce que là, ça crée un malaise, tout le monde, ces entreprises sortent de leur zone de confort, très, très en dehors. Puis les avocats n'aiment pas leur zone de confort. Fait que les autres, généralement, ils deviennent comme nerveux, puis ils posent des gestes agressifs dans ce temps-là. Un avocat nerveux, c'est pas bon.
C'est pas bon.
C'est vraiment pas bon. Mais cela étant, comment on peut amener, puis comment eux ont géré cette situation-là, puis comment nous, on peut répliquer cette façon-là pour aider nos entreprises à maturer et à grandir.
Mais clairement, il faut leur faire comprendre que c'est un super entraînement aussi pour eux. Il y a eu erreur, il y a quelqu'un qui se fait avoir. Oui, mais du coup, ils ont appris. Ils ont aussi, eux, appris sur le terrain. Et je pense que c'est aussi un moyen de faire comprendre à ces entreprises que l'entraînement, après tout, il est bon. Il faut l'avoir. Se faire piéger par quelqu'un qui se fait passer pour le service technique informatique, eh bien, ça lui permet de comprendre aussi qu'à son personnel, il écoute peut-être pas obligatoirement très bien, mais que du coup, s'il est en face de lui, il a un humain qui lui explique, ben voilà, l'attaque. C'est génial, moi, je trouve. En tout cas, c'est top.
Ouais.
Et c'est drôle.
C'est très drôle. Tout le monde riait dans la salle. Mais en même temps, il y a eu beaucoup d'appels que les participants se sont fait refuser carrément. Peut-être que oui, le prétexte était louche, mais en même temps, la personne a senti que c'était bizarre. Donc, elle dit non, je refuse de répondre à tes questions. Mais pas juste non, c'est bizarre. Il y a aussi, j'ai jamais entendu parler de ton projet. Pourquoi je te parlerais? Donc,
si je peux me permettre,
très, très bien.
Il manquait des environnements sonores. Ça, je dis ça pour les concurrents. Le fait d'être dans un lieu clos où on parle au téléphone,
ça aide beaucoup. Ouais.
L'environnement sonore, du coup, va permettre de perturber le cerveau de son interlocuteur. Mais quand je dis intervention, c'est faire rire quelqu'un dans le dos. C'est faire tomber un meuble, faire tomber un clavier. Et là, la personne qui téléphone dit « Ah, le clavier est tombé !» Et puis là, on reprend la discussion. Donc du coup, le cerveau de notre interlocuteur... Tu voulais dire quelque chose, Olivier?
Man,
mais là, il faut
machine.
Le faire tomber, parce que...
C'est une machine! Ouais,
question, vous êtes en couple?
Ouais, mais pour reprendre ce que Damien disait, le contexte, il vient jouer, puis le bruit de clavier qu'il a réfléchi rajoute au contexte. Puis
moi, faire tomber un clavier ou un verre, comme je viens de le faire là, la personne se dit, oh, tout. Ben voilà, dans sa tête, elle va dire, mon Dieu, ça m'est pas arrivé à moi. Et puis après, tu rajoutes dans ton scénario, oh, ça me coule partout, je suis désolé. Oui, donc je vous disais, ou je vous rappelle dans 30 secondes, je nettoie mon clavier. Et donc, du coup, quand je rappelle la personne, elle se dit,
c'est différent,
ça va mieux. Elle a cette espèce d'empathie en disant, ah, pauvre con, c'est toi qui t'es fait avoir en faisant n'importe quoi. Et là, du coup, la conversation peut être différente. Après, il y a tellement de scénarios possibles, attention. Hein,
c'est sûr que dans un concours de social engineering, l'environnement est statique. Fait que oui, comme tu dis, Olivier, c'est peut-être un petit peu aller au-dessus des limites du concours, mais en même temps, un vrai attaquant va utiliser ces techniques-là. On l'a vu, la vidéo était assez populaire sur le web. La personne au DEFCON l'année passée, je crois, qui est une fille avec un journaliste, elle met YouTube Baby Crying, elle appelle son ISP, demande de resetter le mot de passe. Elle n'a aucune information à part le nom de son chum, qui est le nom du journaliste. Elle fait pleurer un bébé sur YouTube. Elle est en mode panique et stressée. Elle met de la vitesse dans son talk. Le gars au support a bypassé toutes les demandes de validation, puis il a changé le mot de passe de la personne. Puis je pense que la vidéo dure 2 minutes et demie ou 3. La compassion énorme à cause du stress, à cause de la vitesse, à cause du bébé en arrière. Elle raccroche, elle regarde le journaliste et dit « Ben, il va falloir que tu changes ton mot de passe demain. »
Alors, je vais être très clair. Vous, mesdames, en social engineering, vous êtes le diable.
Mais juste dans le concours, il y avait une madame et elle utilisait sa voix mielleuse.
Moi, j'y arrive
pas. Mais ça marchait pour
vrai. Mais ça marche, oui. Dans tous les cas, ça fonctionne. Alors, environnement, plus bonne préparation comme il avait pu être fait. Voilà, le social engineering est une véritable arme bien maîtrisée. On passe assez facilement n'importe où. Yes. Entraînez vos enfants. Hein. Moi, mes deux filles sont entraînées au social engineering. Petite clé, j'expliquais tout à l'heure, ma plus jeune qui a 13 ans a appris par cœur une adresse, a appris par cœur une école, a appris par cœur un environnement. Dès qu'une personne lui pose la question « Que fait ton papa ? Où vas-tu à l'école ?», elle est capable de vous donner l'adresse d'un lieu complètement inconnu en France qui n'a rien à voir avec sa vie privée. Un entraînement loin d'être négligeable.
Oui, puis la même chose au niveau des réseaux sociaux, right?
Alors, déjà que j'ai du mal avec mon accent, est-ce que tu peux...
Non, non,
j'ai
Olivier, viens débattre avec nous, parce que là, tu as vraiment un point de vue intéressant à débattre qu'il faut quand même...
Faut que le son de ta voix soit ici, Olivier.
Non, non, retourne-toi, va-t'en.
attends, répète ta question, pour vrai, de ton point.
Donc, j'ai deux filles, donc je relate, je relate à ton point de vue.
Tu relatives?
Mais... je comprends l'idée de d'apprendre systématiquement nos enfants à mentir puis à essayer de détourner les agresseurs, mais un moment donné...
Ils n'ont pas besoin d'en apprendre, ils savent naturellement nous mentir. Puis ils sont passablement bons.
En fait, là, l'idée, c'est que son cerveau soit capable de définir des informations très précises à des inconnus. Après, on sait très bien que s'ils ont besoin de nous mentir parce qu'ils ont envie de passer un truc, il n'y a aucun problème.
Pareils.
Mais l'idée, c'est de leur faire comprendre que leur cerveau doit être capable de mentir selon le sens de la phrase à quelle population. Donc là, l'idée, c'est surtout de se dire, est-ce que je suis capable de fournir une information à une personne qui n'a pas à l'avoir?
Non, mais je comprends. Avec donc, moi, tu sais, je veux dire, donner une fausse adresse dans un cas critique où il y a vraiment besoin d'avoir la vraie adresse, je trouvais que c'était tellement insensé. Que ton enfant donne une adresse erronée alors qu'il est en situation de crise où il faut qu'il retourne chez lui, tu comprends? C'est ça qui était comme un peu mon pourquoi j'étais offusqué.
Ah non, bien sûr, il n'est pas question que si jamais il y avait un problème de santé ou autre, elle donne n'importe quoi. Ils sont débiles, mais pas à ce point-là. Non, mais très clairement, l'idée, c'est que non, c'est que, par exemple...
Mais les miennes, ils ont juste 5, 6 ans, 7 ans. Ils ne sont pas rendus à comprendre la différence entre déception et bonne information.
Tout à fait. Peut-être ça. Clairement, parce que, par exemple, le fait de se retrouver avec des gens qui font des sondages et qui s'approchent de nos gamins, il est tellement facile de collecter de l'information qui peut se transformer en information marketing, par exemple. Donc là, leur idée de comprendre qu'une information se contrôle, donc l'identité et la réputation, donc revenir sur le numérique, l'identité numérique et la réputation numérique, comme sur les réseaux sociaux, c'est déjà leur faire comprendre que ce qui leur appartient, leur vie privée, donc l'adresse, etc., ça ne se fournit pas à n'importe qui, ça se fournit avec réflexion. Et donc effectivement, si elles ont besoin de fournir cette donnée à des gens très précis, donc identifiés, il n'y a aucun problème, heureusement.
Mais tes enfants te mentent pas, toi? Tes filles, en plus, elles te mentent jamais?
Ouais, mais je veux dire,
tu parlais de déception, elles sont pas mal bonnes en déception, là, en très jeune âge d'ailleurs.
Non, mais elles sont un peu dans le champ gauche, là. Ils pensent qu'ils te mentent, mais c'est comme super évident que c'est un mensonge.
Jusqu'à temps que tu le vois plus.
À l'école, aujourd'hui, j'ai passé ma journée avec un dragon, je veux dire.
Ah non, mais ça, c'est des histoires. Mais moi, ils ont commencé vite à masquer des choses. Tu sais, tu parlais de déception, il y a beaucoup d'éléments, mais d'une subtilité des fois qui sont en fait assez fascinants. Là, puis là, les miennes sont plus vieilles, là, mais ça a commencé jeune. Là, 5, 6, 7, là, ça il commence à injecter un peu de distorsion dans la réalité. Fait que, mais non, oui, pas de dragon, là. Mais la distorsion, elle commence vite, puis là, ma grande, elle a 12. La distorsion devient franchement surprenante.
Mm-hmm. Honnêtement, 12, 13, 14, de 12 à 16, j'ai vraiment peur, pour de vrai. Là. Je pense qu'il faudrait qu'on
I relate.
Ailleurs, discuter de nos craintes. Et
je relate.
C'est ça. Surtout qu'on a des filles. C'est clair.
J'ai peur, finalement.
Oui, je seconde. J'ai une belle fille qui est dans ces eaux-là. J'en ai long à dire. Hey, j'ai pas fini.
Ça calisse, ça va. Non, mais il veut juste plus intervenir.
Là. Non, c'est correct.
Ouais, le privacy sur Internet, c'est encore pire. Le gros bug là-dessus, c'est que ça va les rattraper 15 ans plus tard. Ben, 5-10 ans plus tard. la plupart du monde ne sont pas conscients qu'ils mettent les choses publiques et non pas juste à leurs amis, donc c'est disponible à tout le monde. Évidemment, les employeurs font des screenings LinkedIn, Twitter, Facebook. S'ils voient que tu es à moitié tout nu dans des parties toutes les semaines, ça se peut que tu perdes ta job ou que tu n'aies juste pas une job, évidemment.
Sérieux?
Oui, mais ils ne sont pas conscients, même si nous, on trouve ça facile et sérieux, facile à comprendre. On est peut-être 1% dans cette gang-là. Ouais. Mais c'est vraiment un gros enjeu.
Je suis plus optimiste que toi, mais...
Ouais, 2. T'es quand même 100% plus que moi. 2%.
Le double. Mais je suis plus de l'école de pensée de Damien où j'éduque mes enfants.
Oui, évidemment, mais tu restes encore dans la
minorité.
T'as-tu besoin d'une bière, lui? Parce que là, t'es avec la crème glacée. Ah, de la salade.
Non, mais en fait, honnêtement, là, puis cette réflexion-là date de quelques années, là. Mais moi, j'ai hâte au jour où tout le monde va avoir la photo de lui en train de vomir sur Facebook. Donc, tout le monde tombe sur le
ça
même...
Ça va être le standard.
Non, mais
hein?
Tout le monde tombe sur le même pied d'égalité. Ouais. C'est fini, là. Tout le monde a vomi, tout le monde a été sous, tout le monde a fumé du pot. Peut-être pas tout le monde, mais presque tout le monde. Tu sais, à un moment donné, là, le débat, il faut qu'il y aille ailleurs. C'est fini la démagogie de l'image. Il faut se concentrer sur les actions.
T'as raison, mais présentement... La manière que les générations sont faites, c'est quand même un enjeu. Je dis pas que t'as tort, je dis pas qu'on a raison, mais là, il y a du monde qui se font refuser pour vrai leur job à cause de ça.
Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que, tu sais, à mes enfants, je vais leur apprendre de faire attention à leur image, mais, moi, j'ai vraiment hâte au jour où, genre,
c'est pas grave,
Denis Coderre vomit d'une chaudière ou...
ça t'attendra pas, ça.
Mais c'est quoi? Valérie Plante vomit d'une chaudière, puis j'ai à choisir entre
deux chaudières.
D'une chaudière, tu sais. Genre, même.
Mais quelle couleur est la chaudière? Toute là l'importance. Mais non, je comprends ton point de qu'on va. Le niveau d'eau va monter, tout le monde va suivre. Puis ça, donc, tout le monde va sur le même pied d'égalité. Mais il demeure que l'humain est hardwired pour vivre dans des petits villages. Et on n'est pas fait pour vivre dans la globalité dans laquelle on vit. Et le problème, c'est que quand on poste Facebook, c'est parce qu'on pense qu'on est encore dans notre petit village, dans notre petit salon. Puis là, c'est parce qu'il y a 1 million de personnes ou 1 milliard de personnes qui regardent ta photo de toi en train de vomir dans ton bucket. Puis ça devient un problème parce que c'est louche ce qu'on fait. En tant qu'humain, globalement, on n'est pas fait pour vivre dans un univers comme ça. Même si l'eau va monter pour tout le monde, même si on va tous voir des photos de genre la fille qui se fait tenir les cheveux par sa meilleure amie en train de vomir dans la toilette, là, j'espère pas voir... ça va leur arriver, mais j'espère pas voir la photo. Ça me regarde pas. Mes parents m'ont pas vu quand je l'ai faite. Je veux pas que voir quand mes enfants vont le faire parce qu'il y a des...
je t'ai pas tenu les cheveux, là.
Il n'y en a pas assez!
J'ai dit la fille qui tient les cheveux de son ami.
Là, on parle de DEFCON 2017 ou Hackfest 2016? Ça dit tout, ce rire-là. Okay.
Mais cela étant, c'est parce qu'il y a comme des choses qui doivent être vécues dans un contexte privé. Mais on a tous vécu des éléments dans un contexte privé. On a tous vécu des éléments dans un contexte public. On a tous des amis qui se souviennent de nos erreurs, disons.
La différence, c'est que c'était plus louche public avant.
Mais c'est
public. Il y a là le switch.
C'était public dans notre groupe.
Ça va devenir tout public, comme tu dis. Ouais, c'est ça. On est entre les deux.
Mais donc, est-ce que un truc comme Snapchat est en train de... Tu sais, Snapchat est un business model que les gars en technologie... Là, moi, j'ai un disque dur, je store. J'aurais jamais pensé dire « Hey, le edge case de mon réseau social, ça va être... Je vais oublier. » Tu sais, je veux dire, comme data hoarder, tu penses pas à ça. Fait que là, ces gens-là, ils thrive à cause de ça. Puis est-ce que les réseaux sociaux vont devenir peut-être pour les jeunes un truc plus de set it and forget it, puis que les données expirent, les données disparaissent éventuellement?
Mais est-ce qu'ils expirent vraiment?
Mais la réalité de l'oubli est intéressante, puis l'Europe en ça est très intéressante parce qu'il y a quand même un certain degré de législation sur l'oubli numérique. Et je pense que c'est nécessaire. On a le droit à la rédemption parce que l'humain oublie. Fait qu'à un moment donné, justement, le pardon, tout ça. Fait que le fait d'avoir inscrit de façon éternelle sur Internet qu'on a fait une erreur à un moment donné, pas parce qu'on a fait une erreur à 15 ans, qu'on doit le payer jusqu'à 45 ans, cette erreur-là. Maintenant, tu sais, t'as 15 ans. On a tous eu 15 ans, on a tous été cons.
J'ai vu ton site sur Geocities quand t'avais 15 ans, là, puis
c'est louche,
t'as le droit de l'oublier. Là.
Ils sont tous là encore, ils ont pas oublié.
Oui, eux autres nous ont pas oublié.
Enfin, juste un détail, le droit à l'oubli, ouais, je suis d'accord, mais quand on signe les accords avec Facebook, Twitter et qu'ils nous expliquent que ce qu'on leur diffuse leur appartient, on a beau avoir n'importe quel droit à l'oubli, s'ils veulent le ressortir pour le marketing, on est un petit peu coincé quand même. Hein?
Oui. Mais c'est fonctionné en dehors de comment l'humain a toujours fonctionné en société.
Ouais.
Et c'est comment on va devoir redéfinir cet élément-là et comment nos enfants vont devoir naviguer dans cet environnement-là. Nous, on est moins... mes filles n'auront pas Géocité, ils n'auront pas ces affaires douteuses-là à se remémorer. Là. Ça va être plus beau que ça. Ça va dépendre juste de Facebook, mais en tout cas...
Multimédia.fr.
Bon, après 18 heures de podcast...
On est support de la finale. Hein?
C'est clair.
Gagne de Wasp, juste ici en avant. Là.
Oui.
On est pas mal rendu à l'heure de l'Wasp.
Yeah.
Ouais, là, il commence à nous faire nous hocher et dire ouais, vous êtes louches, les gars. Tassez-vous, fermez vos gueules, puis ça me tombe.
On déconne.
Yes. Richer n'a pas parlé beaucoup, fait que je te laisse 10 minutes à parler tout seul. Cool. Mais en même temps, ce que tu dis reflète énormément la réalité d'aujourd'hui. Tu sais, on a créé un Slack pour Hackfest. Il y a beaucoup de personnes à tous les jours qui nous parlent exactement de ce que tu dis. Que la plupart des entreprises qui ne sont pas sécurité n'ont aucun intérêt, vouloir, budget, whatever, pour faire de la sécurité. Oui, parce qu'ils n'ont pas de structure de sécurité. Fait qu'il n'y a même personne pour leur dire que c'est important. Fait que, ouais. Oh, tu aurais pu être dans le panel aujourd'hui.
Oh, on s'entend, ça, c'était pas en 2003 qu'il y avait 2003.
Ouais, exact, exact. 2014. Oh, ouais, comme certains ministères.
Des noms
au kiné. Oui, mais. Je sais pas si c'est vrai. Mais oui, il y en a partout de ça, mais on a un méga pourcentage de ça dans la province, peut-être même pays. Tout le monde pense que tout le monde est beau et gentil. Puis parce que le gros problème, c'est qu'on a, ils ont aucune vision de, un, est-ce qu'ils se font attaquer. J'en parlais beaucoup avec Nick, justement, qu'il y a très peu d'entreprises, je ne ris pas de même, mais. Il n'y a vraiment aucune entreprise qui a des socs. Il n'y a aucune entreprise qui a des socs, presque au Québec. Ils n'ont même pas de système de logging. Puis les entreprises que je connais qui en ont, c'est genre un Splunk ou whatever autre, qui log tout à la même place. Ils ont des millions de lignes de log. Un gars qui check ça, il paye supplé. Ouais, un ça. Million de lignes à la seconde, c'est comme wow.
Puis juste le goût de jeter en bas d'une fenêtre parce qu'il est
ben
tellement
oui, mais
drôle
lui, il est en burn-out après deux semaines, il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Mais ça a l'air super niaiseux ce que je dis, mais la plupart des entreprises n'ont pas la vision, ils n'ont même pas leur inventaire, ils n'ont rien. On est si loin. Fait qu'imagine quand ils n'ont pas ça, quand on dit hey, faudrait que tu investisses en sécurité, mais j'ai aucune raison d'investir, je ne sais même pas que je suis sous attaque.
Non, mais en même temps, au Québec, on a l'impression, parce qu'on parle français, on est comme immunisé par tout le phishing anglophone.
Unicode. Ouais, ouais, mais tu sais. Ça nous aide un peu, oui, sur certaines attaques.
Mais ils commencent à traduire le phishing en français, puis ils commencent à savoir qu'on existe, donc on est ultimement. On a juste été retardé le problème.
Oui, exact. Puis je suis super heureux cette semaine. J'ai reçu, je pense, 6 attaques de phishing pendant le Hackfest. Je n'ai jamais reçu une depuis 10 ans. Je suis devenu une target en fin de semaine. Je suis très impressionné. Merci. Ridicule. Oups, mais c'est pas segmenté.
Oui, il y a ça. Mais pour relativer le débat, c'est parce que quand on parle d'une PME au Québec, la grosseur au Canada en général, la grosseur d'une PME aux États-Unis, c'est pas la même ampleur. Là. Ouais. Fait que quand on parle une PME au Canada, c'est un nombre, c'est une micro-entreprise pour les Américains. Fait que c'est pas le même, la même raison. Fait que c'est pas les mêmes budgets, les mêmes choses. Fait que quand une PME américaine se fait attaquer, c'est comme une moyenne entreprise au Québec qui se fait attaquer. Fait que c'est pas le même. Fait qu'ils n'ont pas les mêmes budgets. C'est peut-être un peu plus honteux qu'une compagnie américaine, une PME américaine se fait attaquer parce que normalement, ils ont plus de budget. Mais c'est cette impression qu'on a, qu'on est tellement petit, qu'on est tellement insignifiant. C'est bizarre comme idée, mais qu'on ne se fera pas attaquer. Mais là, Damien veut intervenir sauvagement, fait que je vais laisser sauvagement intervenir Damien.
C'est beau ce que tu dis. Voilà, c'est tout.
Non. Mais je t'aime, Damien.
Mais peu importe la taille, hein, je pense que c'est de l'éducation, point barre. Hein. Qu'on ait deux employés ou 100 000, voilà, si on n'éduque pas les gens, si on ne leur fait pas comprendre le problème où ils peuvent intervenir.
Oui, mais ça reste qu'il y a un problème au niveau des PME. Je veux dire, c'est une méga target pour tout ce qui est spam, malware.
Ah oui, mais clairement, ouais.
Parce qu'ils sont tout petits, parce qu'il n'y a aucune ressource, ils n'ont pas de budget en sécurité, ils n'ont juste personne. Puis même pour faire des tests d'intrusion et autres, sont. Je veux dire, payer une ressource à 200-300 piastres de l'heure pour une PME, ouais. Ça n'arrive pas, là.
Ah, mais clairement, ouais, ouais. Ouais.
C'est un bon enjeu. Je t'écoute. Est-ce que je leur dis encore? Non.
Il y a un autre élément aussi.
Ouais, vas-y.
C'est terrible.
Ben, en fait, ben, oui, ça, t'as l'air de s'endormir, mais là, il va essayer d'intervenir pour garder réveil.
Ouh! En fait, oui, il est terrible. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis auditeur. Précédemment, sysadmin, j'ai fait de la gestion de base de données, puis à un moment donné, ben, les gens le disent, comme les gens le disent, je suis passé du côté obscur de la force. Je suis auditeur depuis 2004, vérificateur, je fais de la vérification externe, vérification interne, mais dans le domaine des TI, les processus TI. Donc, les grands contrôles généraux TI, j'aime bien le framework COBIT 4.1, pas ce qui vient après, mais j'aime le 4.1 parce qu'il est directif, il est clair, les activités sont bien définies, bon, etc.
Il aime le 4.1.
Ouais. Et puis, j'entends ma.
C'était gratuit.
J'entends ma 14e année. Ce que je vois, entre autres, ce que mes collègues disent, c'est vrai. Deuxième des choses, présentement, notre garde des compagnies qu'on connaît, notre garde, les PDG, les conseils d'administration, etc., on a une vieille garde. C'est des gens qui ne sont pas éduqués. Là, je suis en audit interne et puis on se rend compte que. Je fais des rapports, les rapports sont intrusifs, les rapports révèlent beaucoup de choses. Notre conseil d'administration, là, je nommerai pas la compagnie, ça prend de l'éducation. Pas juste des belles phrases, des beaux mots, mais il faut qu'ils comprennent quand on leur dit qu'il y a un problème. Puis là, la cybersécurité, by the way, parmi les grands objectifs TI, opération sécurité, développement, je pense que la cybersécurité, c'est maintenant la 4e famille de contrôle. Il faut s'y attarder. Faut éduquer nos administrateurs, faut éduquer nos dirigeants. Les sous qu'on demande, je pense que les piastres sont bien investis. On n'aura pas le choix d'investir parce qu'on est un peu consommateur. Tant que ça n'arrivera pas, on ne fera rien, mais quand ça va arriver, le step va être immense.
De toute façon, il faut vraiment garder dans l'état d'esprit que pourquoi moi ça va m'arriver, non, c'est quand ça va arriver.
Ah non, ça va arriver, c'est ça.
C'est tech, hein.
C'est beau comment tu le dis. Alors attends, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, je vais faire comme si je le voyais pas.
Et aussi, les compagnies aiment bien dépenser du CapEx, tu sais, genre, dis-moi quel produit va régler mes problèmes.
Oh, Magic
Alors,
Box.
Yep. On veut la Magic Ball, là, la c'est Magic 8 Ball.
Alors, c'est vraiment sauvage que tu dis. Là.
Sait que c'est le OpEx qui fixe les trucs, c'est les humains, genre.
C'est un processus, la
comment
sécurité,
toi,
right?
Comment toi, comme auditeur, exact, c'est un processus, c'est pas une destination. Donc, comment toi, comme auditeur, t'es capable d'essayer de convaincre ou de changer la vapeur à... Non seulement ça prend du staff, mais ça prend du staff qualifié, ça prend du staff formé. Si je suis pas capable de trouver, ben, je vais prendre des juniors, puis je vais les former, puis les amener là, puis prendre le temps que ça prend pour les amener là.
Ah, il laisse faire les thumbs up.
On n'a pas 2 heures. Là.
On n'a pas 2 heures, ça fait 6 heures qu'on enregistre.
Par souci d'indépendance, je ne me rendrai pas jusque-là. Mon rôle, c'est tout simplement de démontrer puis divulguer de façon intègre et transparente la menace. Le problème existe. Il faut trouver un moyen. Moi, mon rapport, je veux que ça donne un levier aux équipes d'opération en sécurité. Le levier nécessaire puis les mots nécessaires pour dire, bon, ben sur notre horizon, notre plan stratégique, notre horizon 3-5 ans, je pense qu'il va falloir investir. On investira plus la première année. Ils trouveront le moyen. Ils trouveront le moyen, c'est pas à moi de leur dire comme auditeur, mais c'est d'éduquer le conseil d'administration, que le rapport soit clair, de leur dire, soyez pas surpris si vous voyez des demandes.
Mais je vais te relancer. Le conseil d'administration et les gestionnaires dans lesquels tu fais référence, tu dis qu'ils sont pas éduqués à la sécurité, donc on est comme dans un problème qui se résout pas. C'est une boucle, c'est une boucle. Tu sais, tu dis aux gens qui y croient pas, essayez d'y croire, puis...
Non, c'est pas ça que j'ai dit, là. Là, tu dis n'importe quoi.
Non.
Donc, bois, là, c'est les 5 minutes où ils se disputent.
C'est ça, bois. Non.
Ma bouteille est vide. Je parle plus quand ma bouteille est vide.
Non, on fait des bons rapports. On fait faire des bons rapports.
Je ne qualifie pas la valeur de tes rapports. Je fais juste dire que
je ne parle pas des miens.
Peu importe, comme auditeur. On se parle donc comme auditeur. Mais c'est parce que tantôt, tu as spécifié qu'on parlait que les gestionnaires sont mal éduqués. Ils ne sont pas conscients de la situation au sens où ils devraient être éveillés à ce genre de choses-là. Puis ils sont un peu, à la limite, réfractaires à ce genre de choses-là. Puis ensuite, tu vas leur dire faut embaucher des gens spécialisés, bon. Puis, mais ils sont déjà réfractaires. Fait qu'on est comme dans un problème où on tourne en rond.
Non, là, tu mélanges les choses. Moi, je vais divulguer le problème.
Ouais, mais
le moyen, ensuite de ça...
Ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre qu'ils sont éduqués. Ouais, c'est ça le point.
Ça donc, ça ne répond pas à la question d'Olivier. Donc, tu ne donnes pas les moyens à la gestion.
Ben, je peux pas. Je peux pas me substituer à la gestion.
Les aider, les orienter...
Non, je peux pas. Faut que je demeure indépendant. C'est ma limitation.
Être consultant, c'est awesome parce qu'il y a zéro risque puis tu fais tout le cash.
Aucune responsabilité.
C'est ça que j'ai compris de la réponse.
Attention.
Merci. Maintenant, j'ai un objectif de carrière différent.
Et on va juste rappeler ici que Olivier travaille pour une firme de consultation.
Et que le meilleur rôle possible est fait du R&D, fait qu'il n'y a même pas besoin de prendre tête
ouais,
des clients.
C'est perfect role. Yeah, mais c'est un bon sujet qu'on pourrait vraiment parler encore et encore, mais... Il y a vraiment, je veux dire, la sécurité. Non, Vincent parle pas, mais pour vrai.
Vincent refuse.
Yes, il refuse de parler de ça, mais ça reste notre plus gros problème en sécurité, c'est de passer du niveau technique au niveau non technique, de vendre l'insécurité et la sécurité à la haute direction, d'avoir quelqu'un qui est capable de faire le lien entre les deux. Il y en a très peu, je veux dire, il y en a beaucoup au Hackfest. Mais ils n'ont pas le rôle, puis ils n'ont peut-être même pas l'intérêt d'avoir ce rôle-là, d'être capable d'être un genre de ciseau ou whatever. Je veux dire, on aime la technique,
J'ai entendu parler qu'une maîtrise en musique permettait d'atteindre ce rôle-là.
Non! Mais pour être le gars méchant versus ton argument qui est « oui, il est drôle », les plus grands hackers de la planète ont des bacs en musique, fait que l'argument reste inutile, mais j'approuve que c'est vraiment drôle en même temps.
Mais dans le contexte, c'est hilarant parce que...
C'était pas le plus grand hacker sur la planète, évidemment.
C'est pas parce que la personne... ils ont utilisé son pedigree pour la dénigrer, mais ouais. Elle était pas à la même... Il n'aurait pas été dans la situation. C'est pas à cause qu'elle a un bac ou pas en musique qu'ils sont dans cette situation-là, mais c'est parce que la personne ne comprend pas ce qu'elle devait faire. Là.
Exact. Mais c'est ça, ça reste notre plus gros enjeu. C'est un enjeu de communication, de compréhension. Puis je pense pas qu'on y arrive tout de suite tant qu'on n'aura pas les ressources pour pousser le niveau technique de manière business en haut. Parce que ça reste un risque d'affaires. Puis c'est là la différence. Notre problème en sécurité, ce qu'on fait en sécurité, c'est ultra technique. Beaucoup de tests d'intrusion, beaucoup de scans, de rapports et de gogos. Mais c'est rare que les compagnies, puis surtout en consultation, qu'on va aller pousser ça aussi level. Là,
il faudrait arrêter de leecher l'audience de l'OWASP. laisser la place.
Fait que, on se reparle bientôt, messieurs. On refait le même podcast l'année prochaine. On se reparle dans 2-3 semaines. Le temps de dormir pendant
deux semaines. Le prochain.
Deux semaines.
Dans 15 jours.
Fait que tu te ramèneras de la poutine en Europe, mon body?
C'est bien. Avec grand plaisir. Là, je crois que j'ai goûté quasiment toutes les recettes possibles imaginables.
Dans les trois plats ici, en reste, tu mettras ça dans tes bagages.
J'ai acheté une valise spéciale poutine.
Yes?
Non. Déjà que je me suis fait conspirer mon raspberry à la douane américaine. Donc, ouais.
Oh, ouais.
Si. Ils ont très certainement vu en moi quelqu'un de dangereux, mais en tout cas, je l'ai cassé devant eux. Hein. Il n'était pas question de leur laisser.
Donc, Damien, Damien, quand tu vas rentrer au pays, si on te pose la question, si tu as visité une ferme pendant ton séjour à la quantité de poutine, tu pourras répondre.
Ouais, mais tu devrais savoir, les douaniers européens ne sont pas aussi intenses que nos douaniers américains. Là, parce que mon dernier voyage en Europe, j'ai comme été un peu trop jovial avec le douanier belge.
D'accord.
Et lui, il m'a juste carrément ignoré. Il ne m'a pas adressé la parole. Une fois, il a juste regardé mon passeport. Il a comme grogné puis il me l'a lancé en pleine face. Fait que là, je fais comme, oups, je pense que mon habitude avec les douaniers américains est peut-être pas populaire en Europe.
Le douanier américain, quand il demande, on accepte, point barre.
Yes.
Donc, merci messieurs.
Des bisous.
Les Richets. Yes.
Mot de fermeture.
Éventuellement, avant de quitter, je pense qu'on pourrait peut-être remercier toute la foule qui est devant nous, qui nous a écoutés pendant 2 heures en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces gars? On vous remercie.
Yes.
Merci.
Merci. C'est bien, on a au moins 12 auditeurs. J'ai maintenant les nouvelles statistiques. Mot de fermeture.
C'est tout.
Mot de fermeture.
Ok, fait une longue phrase là-bas.
Over and out.
Awesome. Thanks.
Merci tout le monde.